Les Apatrides Anonymes, épisode du 19 octobre 2023, en direct tous les deux jeudis 18h30 ou en rattrapage sur choc.ca, la radio étudiante de l'UQAM. On est aussi diffusé sur le 107.9 FM Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon, je vais animer la prochaine heure et dix. Je suis en compagnie de mes deux habituels collègues Marie-Ève et Mathieu qui nous ont préparé toutes sortes de contenus local et international. En phase, bien sûr, avec nos thématiques habituelles, mouvements migratoires, racisme, loi sécuritaire absurde, régime autoritaire et leader fou, technosolutionnisme frontalier, exploitation des migrants, infantilisation des peuples autochtones, etc. Mathieu, je commence par toi, ça va bien?
Ben oui, bonsoir Simon.
Salut Mathieu, qu'est-ce qu'on a au menu?
Ben, je vais parler de différentes situations de travers migrants ici, comme tu avais parlé il y a deux semaines. C'est la suite, il y a plein de cas qui n'ont pas d'allure, des poursuites, des pénalités, des abus, finalement, tout simplement. Et je vais aussi parler de différents rapports politiques qui se passent en Europe dans les dernières semaines. Ça bouge beaucoup, là.
Dont un rapport, je pense, de l'UNICEF. Exactement. Sur les enfants migrants.
Et le pacte migratoire en Europe aussi, oui.
Parfait, on te retrouve un peu plus tard. Marie-Ève, toi, on va t'entendre un peu après Mathieu. Toi, tu nous as préparé aussi un peu de contenu, je crois.
À peine.
Juste non, comme ça, sur le coin d'une table.
Là, c'est ça. Moi, je vais vous parler, entre autres, de la route migratoire des Canaries.
OK.
Qui est très, très empruntée ces derniers temps. Et je vais aussi vous parler d'enjeux carcéraux d'ici, si on veut.
D'ici Québec-Canada.
Québec-Canada, effectivement.
Parfait, on va te retrouver dans le studio principal un peu plus tard. On aura, comme d'habitude, des nouveautés musicales locales et vers la fin, un agenda littéraire et militant. Spécial de double dédicace pour ce podcast des Apatrides. Premièrement, la population manitobaine qui a élu un tout premier ministre provincial autochtone. Nouveau gouvernement du NPD dirigé par Wab Kinu de la nation Ojibwe, d'Onigaming dans l'ouest de l'Ontario, avec une députation très diversifiée. Sur 34 élus, 14 sont des femmes, 10 sont membres des Premières Nations ou sont métisses, 10 sont issus de groupes de minorités visibles autres qu'autochtones et 4 proviennent de la communauté LGBTQ+. Donc disons qu'après 7 ans de pouvoir conservateur très blanc, très beige à Winnipeg, on peut juste dire bravo et aspirer un coup de balai semblable au Québec et en Ontario le plus rapidement possible.
Yeah!
Deuxième dédicace, salut au peuple polonais qui a enfin chassé du pouvoir l'extrême droite catholique du parti Droit et Justice après 8 ans de règne corrompu et catastrophique basé en grande partie sur la diabolisation des migrants. Ce sera maintenant un gouvernement de coalition dirigé par Donald Tusk, ancien président bien connu du Conseil européen, qui n'est pas vraiment notre héros ici.
Non, c'est pas notre ami, non.
Mais quand même, son discours général et la coalition qu'il dirige sont quand même beaucoup plus modernes ou progressistes que ce à quoi les Polonais et les Polonaises, disons-le, sont habitués depuis 8 ans. Ça vient aussi un peu isoler la Hongrie de Viktor Orban, qui s'appuyait souvent sur le gouvernement polonais au Parlement européen. Sur le gouvernement, oui, c'est ça. Donc, cette alliance tacite entre Budapest et Varsovie vient d'éclater. L'élection était assortie de référendums, dont un sur le renforcement du mur à la frontière avec la Biélorussie et un autre sur un durcissement de l'accueil des migrants. Et l'appel au boycott des référendums a fonctionné, 40% seulement de taux de participation, ce qui les rend invalides.
Ah oui.
Et ça prenait 50%, donc double camouflet pour Droit et Justice. Pour information, 72% de taux de participation pour l'élection en tant que telle, donc c'est vraiment un boycott de la population. Donc je pense que la table est mise pour cette nouvelle édition des Apatrides Anonymes. Après notre thème d'ouverture, on vous sert quelques autres nouvelles internationales avec d'abord moi-même et ensuite avec Mathieu. Nouvelle tension entre Europe et Afrique. Tout d'abord, on sait que depuis quelque temps, la France est rendue plutôt persona non grata dans plusieurs anciennes colonies, notamment là où il y a eu des coups d'État récemment. Ça dépasse le niveau du froid diplomatique, la dernière escalade en date suite à la fermeture de ses services consulaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le gouvernement français a suspendu les nouveaux visas et les nouvelles bourses d'études pour les étudiants maliens, burkinabés et nigériens, mesure qui ne concerne pas les étudiants qui sont déjà sur le territoire français. Le gouvernement n'indique pas pour l'instant de date de reprise d'émission des visas et des bourses pour les étudiants des trois pays, donc j'imagine que ça va dépendre de l'évolution de la chaleur diplomatique avec les gouvernements intérimaires, appelons-les comme ça. Maintenant, petite chicane de chiffres entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui affirme qu'une grande partie des migrants qui sont arrivés à Lampedusa et dans les autres points d'entrée italiens dans les dernières semaines, on assiste d'ailleurs à des arrivées records actuellement, donc ces migrants proviendraient massivement de la Côte d'Ivoire selon Bruxelles, ce qui choque le ministre ivoirien de l'Intérieur qui voit là une atteinte vicieuse à la réputation de son pays. Il affirme que c'est juste basé sur ce qu'aurait affirmé un faible échantillon de personnes migrantes interrogées au hasard, sans vérification auprès du gouvernement ivoirien, vérification qui normalement, avant de publier des chiffres, aurait dû être faite, comme le prévoit l'entente Union européenne-Côte d'Ivoire qui s'appelle « Documents partagés ». Donc, selon les chiffres contestés, la Côte d'Ivoire serait le deuxième pays d'origine des personnes qui arrivent par mer en Italie. Le premier pays étant la Guinée, Guinée-Conakry, suivi de la Côte d'Ivoire, comme on disait, mais on ne dira pas trop fort parce qu'on ne veut pas choquer le ministre.
Non, il va être choqué.
Et comme troisième pays d'origine, le pays même de l'embarquement, soit la Tunisie. Maintenant, autre petite chicane, intense cette fois, je finis là-dessus. Mathieu a hâte de nous parler.
Si je peux faire une petite blague, c'est que je pense que leur échantillon il a été fait à partir d'un vox pop de Guinantel, c'est pour ça.
Il était parce qu'on sait que Guinantel est bénévole sur des bateaux de sauvetage d'ONG en Méditerranée, bien sûr.
Pour la Croix-Rouge italienne,
bien sûr. C'est toujours aussi fiable que les vox pop.
Il fait juste des vox pop, tu sais. Il regarde se noyer, puis après, il les interroge. Bref, petite chicane interne, cette fois entre l'exécutif et le législatif en Italie, suite à un décret de la première ministre de Giorgia Meloni, qui prévoit que les exilés déboutés du droit d'asile qui proviendraient de pays dits sûrs et qui ne sont pas en mesure de verser une caution de 5 000 € doivent être emprisonnés avant leur expulsion. Ben, ça fait quelques juges qui, au grand déplaisir de la première ministre, refusent d'appliquer le décret en indiquant dans leur jugement que la mesure est inconstitutionnelle et contraire au droit européen. Dans tous les cas, les décisions concernaient des migrants tunisiens et les juges en ont profité pour asséner une deuxième claque à Mme Meloni, un beau 2-1 sur les claques en Italie, en statuant que la Tunisie ne peut pas actuellement être considérée comme un pays sûr.
Ah ben.
Ben Mathieu, justement, puisque tu interviens, je te laisse le micro. On reste dans la même région, entre autres. Tu nous parles de... Tu commences par quoi exactement?
Je commence par les déplacements reliés au changement climatique, mais on va venir à l'Europe assez rapidement.
Dans le monde en général.
Oui, on va reparler de Georgia qui est choquée, là.
Elle se déchoque vite, puis elle se rechoque rapidement.
Ben oui, puis elle fait juste ça. Fait que... Ben, plusieurs informations intéressantes en termes politiques, statistiques, rapports, ententes. Un rapport de l'UNICEF sorti il y a 2 semaines. Qui dit qu'entre 2016 et 2021, quatre types de catastrophes climatiques, inondations, tempêtes, sécheresses, incendies, dont la fréquence et l'intensité augmentent avec le réchauffement climatique, ont entraîné 43 millions de déplacements d'enfants à l'intérieur de 44 pays, dont 95% liés seulement aux inondations et aux tempêtes. Donc, c'est des gros chiffres.
C'est très, très gros, hein, quand même.
En 5 ans, à peu près, oui. C'est l'équivalent d'environ 20 000 déplacements d'enfants par jour. Ces mineurs sont alors exposés à de multiples risques de la possible séparation de leur famille au réseau de trafic d'enfants. Ces données comptent formellement le nombre de déplacements d'enfants et non le nombre d'enfants déplacés. Donc, le même enfant peut être déplacé plusieurs fois en 5 ans. On s'entend par plusieurs catastrophes.
Mais une fois déplacé, il y a encore plus de chances de l'être.
Exactement. Et il peut revenir, il peut repartir. Donc, de plus, ces données sous-estiment radicalement les déplacements liés aux sécheresses, survenant plus lentement et donc plus difficiles à surveiller. Et ça n'inclut pas non plus l'immigration plus lente due au changement climatique, aux catastrophes. Les Philippines, l'Inde et la Chine sont les pays les plus touchés en nombre absolu, en raison de leur très large population, de leur situation géographique, mais aussi de plans d'évacuation souvent préventifs. Okay. Mais en se penchant sur la proportion d'enfants déplacés, l'image met en lumière la vulnérabilité de l'Afrique et des petites îles, dont la Dominique, qui a ainsi vu 76% de ses enfants déplacés dans les 6 dernières années, Cuba et Sainte-Marie, plus de 30%, Vanuatu, 25%, et les Philippines, 23% des enfants.
OK. Soit pour les Caraïbes, je n'étais pas du tout au courant.
Oui, bien, à cause des ouragans, beaucoup, entre autres. Ah oui. Oui, c'est beaucoup ça. Ce n'est pas la sécheresse, c'est sûr. Sinon, bien, toujours l'UNICEF fait un autre rapport. Entre juin et août, cette année, 2023, au moins 900 personnes ont fait naufrage en Méditerranée centrale, donc sont décédées. C'est les derniers chiffres officiels. Soit 3 fois plus que les 334 migrants qui avaient perdu la vie à la même période en 2022. Depuis janvier 2023, au moins 289 enfants sont morts lors de ces traversées, selon l'UNICEF pour l'Italie. 11 600 mineurs non accompagnés ont tenté de se rendre en Italie entre janvier et septembre de cette année toujours, soit 60% de plus que l'année dernière. c'est assez parlant aussi.
Donc, par la mer. Là.
Par la mer, oui, oui, tout à fait. Oui, on parle des arrivées en Italie par la mer. L'agence dénombre 21 700 enfants non accompagnés dans les centres de d'accueil en Italie contre 17 700 il y a un an. Donc, ça augmente tout le temps. Tu parlais de ce qui arrive à Lampedusa. Là, c'est évidemment, ça joue là-dedans. Mm-hmm. Sinon, au niveau européen, la semaine passée, les ambassadeurs des pays de l'UE se sont mis d'accord sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne en surmontant les réticences italiennes. L'accord devra désormais faire l'objet de négociations avec le Parlement européen. C'est toujours pas fait. Ce texte, dernière pièce du pacte asile-immigration de l'UE sur lequel les États membres devaient se mettre d'accord, s'était heurté pendant plusieurs mois aux objections de l'Allemagne pour des raisons humanitaires. Aussi, Georgette Meloni avait réclamé que ces ONG... Georgette Meloni avait réclamé que les ONG fassent débarquer les migrants dans les pays dont leurs bateaux battent pavillon. Je pense que Marie-Ève l'avait mentionné il y a deux semaines.
Oui.
Le compromis adopté finalement a reçu le soutien de l'Italie qui a abandonné cette clause et l'Allemagne aussi qui a abandonné d'autres demandes. Qu'est-ce qu'il propose, ce fameux texte-là? Il prolonge la durée possible de détention des migrants aux frontières extérieures de l'Union jusqu'à 40 semaines.
Ouf!
Et permet des procédures d'examen des demandes d'asile plus rapides et simplifiées pour un plus grand nombre d'exilés, tous ceux venant de pays dont le taux d'acceptation est inférieur à 75 % afin de pouvoir les renvoyer plus facilement.
On sait déjà qu'on n'a même pas assez de place pour loger tout ce monde-là ou pour rétentionner tout ce monde-là.
Mais ben enfin, non. Mais à l'extérieur des frontières, tu sais, c'est juste souvent...
Ça veut rien dire.
C'est ça, exactement. Comme des barges en Angleterre, par exemple.
Ah, ben oui.
Il prévoit par ailleurs un déclenchement rapide des mécanismes de solidarité envers un État membre confronté à un afflux massif, sous la forme notamment de relocalisation de demandeurs d'asile ou d'une contribution financière. On a déjà entendu ça. L'Allemagne s'était longtemps abstenue dans les discussions en raison de l'opposition des Verts, qui sont membres du gouvernement en Allemagne, qui réclamaient des aménagements pour les mineurs et les familles, mais ça a l'air qu'il n'y en a pas eu finalement. Mais le texte n'est pas public au complet encore.
Mathieu, j'ai une question pour toi.
Oui, vas-y.
Dans le cas de relocalisation là, d'urgence, là, quand que c'est pour le mécanisme de solidarité, est-ce que ça serait une relocalisation temporaire ou permanente?
Ça serait, ce que je comprends, c'est que ça serait temporaire permanente, c'est-à-dire que c'est des quotas, c'est un genre de quota, là, sans les nommer. Ouais. Mais les détails n'ont pas sorti encore, puis ça va être officialisé quand le Parlement va avoir voté là-dessus. L'objectif affiché est d'aboutir à une adoption de ce pacte qui a été présenté en 2020. Ça fait longtemps que ça traîne. Puis qu'on prend une dizaine de législations différentes. Ça, c'est vraiment celle sur sur l'asile. Donc, ils veulent adopter tout ça avant les élections européennes en juin 2024. Lors du vote là, de la semaine passée, sur le texte précis, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque se sont abstenus. Tandis que la Pologne et la Hongrie se sont opposés. Mais là, comme tu parlais en Pologne, ça va peut-être changer aussi. Là, dans les
on verra.
Sinon, ben, pour Marie-Ève, on va parler de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, qui s'en est prise à la Convention de Genève sur les réfugiés devant l'American Enterprise Institute, un centre de réflexion de centre-droit basé à Washington, il y a deux semaines.
Ah oui, elle veut remettre en question les textes fondateurs de l'humanité. T'sais.
La Convention de Genève confère à au moins 780 millions de personnes le droit théorique de s'installer dans un autre pays, selon elle. Je la cite, « Nous ne pourrons pas maintenir un système d'asile si le simple fait d'être un homosexuel ou une femme et de craindre la discrimination dans son pays d'origine suffit pour bénéficier d'une protection à l'extérieur. » Dans son discours, Mme Braverman a aussi estimé que la situation actuelle, absurde et intenable selon elle, permet aux migrants de choisir leur destination préférée pour demander l'asile.
Ben oui, c'est avoir vacances.
Oui, ça. Oui, ils vont même au tirage au sort, j'imagine. Ben oui. Aucune personne entrant au Royaume-Uni par bateau depuis la France ne fuit un péril imminent. Je ne sais pas si ça ne comprend pas les gens, c'est parce qu'ils viennent, c'est pas des Français, là, c'est des gens qui viennent de d'autres pays, ont des problèmes.
Oui. Souvent, ils viennent rejoindre des connaissances ou de la famille, là aussi. Là.
Exactement. Le HCR a rétorqué que la Convention de Genève est la pierre angulaire du système de protection des réfugiés et reste un outil qui sauve des vies. Elton John.
Oh, c'est la première fois qu'il fait son apparition à notre émission, je pense.
Ce ne sera pas une pièce, évidemment, de musique. Elton John s'est dit très inquiet des déclarations de la ministre. Ignorer le vrai danger auquel font face les communautés LGBTQ+, risque de légitimer davantage la haine et la violence à leur encontre, je le cite.
Et même au Royaume-Uni.
Surtout qu'en
plus,
avec les gouvernements d'extrême droite qui prennent le pouvoir un peu partout dans le monde, ça va juste... la situation pour les communautés LGBTQ+, va juste s'empirer.
Ben, tout à fait.
Mais donc, incluant en Europe.
Incluant
même.
En Europe et dans les Amériques. L'organisation Refugee Control estime que le gouvernement britannique devrait s'attaquer aux vrais problèmes rencontrés par son système d'asile et fournir des itinéraires sûrs aux personnes ayant besoin de protection plutôt que de s'en prendre à la Convention de Genève. On rappelle que le gouvernement conservateur de Rishi Sunak multiplie les mesures pour tenter de mettre fin aux arrivées, sans succès. En 2023, environ 24 000 exilés ont déjà fait la traversée de la Manche et un nouveau record d'arrivées au Royaume-Uni a été observé le week-end des 9 et 10 septembre. Plus de 800 migrants ont traversé la Manche en deux jours à bord de 13 embarcations différentes. Et au moins 13 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année à la frontière, sur la Manche, là, entre la France et la Grande-Bretagne. Je vais terminer avec un texte plus de fond que je vous invite à lire.
Parfait.
C'est une suggestion. Ça s'appelle « De la dignité d'accueillir les migrants à la crise de Lampedusa. 6 ans de revirement français en termes de politique migratoire ». C'est France 24 qui a publié ça. Je vais vous en lire quelques extraits si j'ai quelques temps, un peu de temps, Simon.
Oui, c'est correct.
Alors que le ministre de l'Intérieur français, Darmanin, répète que la France n'accueillera aucun des migrants arrivés ces dernières semaines à Lampedusa, France 24 revient sur 6 années de revirement de l'exécutif français sur la question migratoire. Depuis janvier 2017, alors que le candidat Macron fait l'éloge d'Angela Merkel sur la question des migrants...
Ah, il n'est pas encore président.
Non, en 2017, non. Et je le cite, « Quand l'Italie affrontait seule l'arrivée des réfugiés à Lampedusa, au point que le pape François s'en est vraiment ému, ni la France ni l'Allemagne n'ont été au rendez-vous. Une fois élu, Emmanuel Macron précise sa vision de l'accueil des migrants. Je le cite, « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus en quelque part. » La Fondation Abbé Pierre rappelle que plusieurs dizaines de milliers de migrants dorment toujours dans les rues en 2023 en France. Été 2024, la France refuse d'accueillir l'Aquarius de SOS Méditerranée. Emmanuel Macron critique alors le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien qui refuse de laisser le navire accoster mais n'accepte pas de le recevoir pour autant. Ensuite, la loi asile et immigration de Gérard Collomb en 2018, des mesures comme la possibilité de placer des enfants en centre de rétention, réduire les délais de recours des demandeurs d'asile déboutés. Ensuite, Édouard Philippe restreint l'accès aux soins pour les migrants. On en a parlé à l'émission.
On l'avait oublié, Édouard Philippe.
Ben oui, il était premier ministre à l'époque. En novembre 2020, l'évacuation violente des camps de migrants, dont celui de la place de la République à Paris, on s'en rappelle aussi. En août 2021, après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, Macron déclare qu'il faut se préparer à affronter des flux migratoires irréguliers importants et accueille beaucoup moins d'Afghans que la France, que le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les réfugiés ukrainiens, avec le deux poids, deux mesures, eux, ont été plus acceptés.
Ben oui, mais là, tu vends tous les punchs de l'article.
Ben non, mais écoute, il faut lire les détails, là, tu sais. Okay. L'Ocean Viking, en novembre 2022... qui est finalement accepté, mais finalement Darmanin, qui est rendu en 2022, Darmanin annule le transfert de 3500 migrants venant d'Italie en échange d'accueillir quelques dizaines de migrants de l'Aquarius.
Parfait.
De l'Ocean Viking, pardon. Et juste vous dire actuellement qu'il y a une révision de la loi immigration qui se fait actuellement en France au Parlement et que là, il y a d'autres mesures plus répressives qui risquent d'être adoptées dans les prochaines semaines. Donc, on en parlera donc éventuellement à l'émission.
Bien sûr. Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir. C'est
un grand tour d'horizon.
Ben
c'est très intéressant.
J'ai bien tourné, hein?
Ben oui, très bien tourné. Fait qu'on s'en va tout de suite en musique pour continuer à tourner en studio avec Population 2, la pièce CTQS. La pièce CQTS du groupe local Population 2, 2 en chiffre romain, du tout récent album Électron libre du Québec, je ne sais pas si ça parle du Parti conservateur du Québec, qui vient de faire son entrée au palmarès local de Choc et qui est le 100e album publié sur le label montréalais Bon Sand. Bravo, bon anniversaire. Et à propos de cette pièce, on peut lire dans le site de Bon Sand qu'elle frappe par son rythme souple et impitoyable et ses lignes d'orgue dissonantes avant de nous propulser en prenant une tangente explosive et légèrement inquiétante, un manifeste contre la victoire des boomers et l'ordre banlieusard. Ouais, merci Population 2. Yes. Maintenant, cherchez pas le rapport, quelques nouvelles en provenance du Pakistan, dont le gouvernement a annoncé début octobre que les 1,7 millions de réfugiés afghans qui sont toujours en situation irrégulière dans le territoire pakistanais ont jusqu'au 1er novembre pour quitter le pays de leur propre chef, faute de quoi ils seront expulsés de force. On laisse aussi entendre qu'en plus, on veut éventuellement contraindre le million, à peu près un million de réfugiés afghans en situation régulière, de quitter le Pakistan. On ne sait toujours pas quand ni comment, je parle des modalités, mais sur quelle base légale non plus, ça c'est pas très clair. On sait qu'on prétexte, comme toujours, des craintes liées au terrorisme. Donc, pour l'instant, on sait que les rafles policières dans la communauté afghane s'est déjà commencé, autant auprès des Afghans en situation régulière qu'irrégulière, puisqu'on se partage souvent les mêmes logements, les mêmes lieux de travail. Le climat de peur est donc bien installé. Les organisations internationales exhortent le gouvernement pakistanais de ne pas mettre en œuvre cette déportation de masse vers l'Afghanistan, qui reste à ce jour l'un des pires pays en matière de droits humains. Tout ça doublé d'une crise humanitaire catastrophique qui semble pas du tout sur le point de se résorber et qui s'est même aggravée récemment en raison des puissants tremblements de terre et d'une réponse du gouvernement taliban complètement déficiente. Plusieurs appels à l'aide des diasporas afghanes à travers le monde, dont au Canada, pour que nos gouvernements fassent des pressions diplomatiques sur Islamabad ou du moins apportent une aide spéciale. Je suis maintenant en compagnie de Marie-Ève, qui va nous transporter à presque 9000 km vers l'ouest, autre région en proie à une crise migratoire aiguë, les îles Canaries. On parle souvent de cet archipel en face du Sahara occidental et du Maroc, qui est le poste avancé de l'Union européenne le plus austral, le plus au sud.
Exactement. Et je vais commencer par une bonne nouvelle, parce que la suite de ce bloc ne sera pas à l'avenant.
OK.
En Espagne, 9 migrants qui étaient accusés de piraterie ont finalement été libérés. Ces hommes, dont l'origine n'a pas été dévoilée, avaient entrepris la traversée depuis le Sénégal et avaient été secourus en chemin par un remorqueur néerlandais avec des dizaines d'autres personnes.
OK.
Les autorités espagnoles affirmaient que ces 9 personnes-là avaient forcé l'équipage à se diriger vers l'archipel espagnol des Canaries au lieu du Maroc. Donc, à leur arrivée à l'archipel, les 9 migrants avaient été arrêtés sans résistance par la garde civile. Le juge a fondé sa décision sur le témoignage du capitaine du bateau qui a contredit la version officielle des autorités espagnoles.
Des gardes-côtes, là, j'imagine.
Oui, oui. Il a expliqué que les migrants secourus ne l'avaient pas forcé à se diriger vers les Canaries, ni pénétré par effraction sur le pont et qu'ils avaient plutôt menacé de se suicider s'ils s'étaient renvoyés au Maroc, mais jamais ils ont été violents avec l'équipage.
OK, c'est une nuance quand même importante.
Quand même. Mais ce type d'accusation-là, c'est-à-dire de piraterie, n'est pas nouvelle. Ça a déjà été employé par plusieurs États, mais dans des circonstances différentes, évidemment. En juin 2023, par exemple, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, que je rappelle est cofondateur du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, avait désigné comme pirate un groupe de migrants aussi accusés d'avoir soi-disant repris le contrôle d'un bateau turc en menaçant l'équipage avec des couteaux. Et comme dans le cas des 9 migrants dont je viens de parler, ben l'enquête qui a suivi a contredit ce récit officiel. Pas de violence ni de kidnapping, encore moins de détournement ou de piraterie, selon les témoignages des exilés mêmes, qui ont été confirmés d'ailleurs par des images de vidéosurveillance. Ceux-ci avaient été cachés dans un camion transporté par le navire et ont utilisé un objet coupant pour percer la bâche, histoire de prendre un peu l'air.
Oui. Ça me rappelle une histoire, un migrant qui avait remplacé un capitaine sur une petite embarcation.
Oui,
un capitaine
me rappelle
qui ben, passait finalement, qui s'était enfui, puis on l'avait accusé de piraterie aussi.
Exact.
Ou de trafic humain. Là,
voilà. Faut dire que depuis le 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 personnes migrantes qui sont arrivées aux Canaries, dont 90% sont de nationalité sénégalaise. Il s'agit d'une hausse de 20% par rapport à la même période l'an dernier. Et depuis le début du mois d'octobre, les arrivées massives sont vraiment sans précédent. Par exemple, en une seule journée, au début du mois, 1000 personnes ont débarqué sur l'archipel.
Wow.
Deux jours plus tôt, les gardes-côtes espagnols avaient porté assistance à au moins 900 migrants subsahariens, dont des femmes et des enfants également en une journée. Et donc, pour octobre, entre le 1er et le 10 octobre, ce sont pas moins de 53 bateaux avec 4500 personnes à bord qui ont atteint les côtes Canaries. Faites un calcul vite, ça fait une moyenne de 400 à 500 personnes par jour. La Croix-Rouge est la seule ONG présente sur les ports d'arrivée, en accord avec le ministère, les ministères en charge de la question migratoire. Les personnes qui débarquent sont épuisées. Certaines arrivent déshydratées, selon la Croix-Rouge, surtout celles qui partent du Sénégal et qui font là, de 5 à 8 jours de navigation en mer. Mais très peu sont transférés vers des hôpitaux pour y recevoir des soins approfondis. Ça, c'est toujours selon la Croix-Rouge. Les centres d'hébergement sont saturés. Des centaines de migrants se retrouvent à dormir au port, à même le sol. Ce sont des scènes qui rappellent celles qui avaient été observées à la fin de l'année 2020, où pendant plusieurs mois, des milliers de migrants nouvellement arrivés aux Canaries étaient retenus pendant plusieurs jours dans des conditions précaires sur la jetée qui avait été nommée le camp de la honte. Le port d'Arguineguín, qui était même devenu le symbole de la mauvaise gestion des arrivées de migrants par les autorités espagnoles. Les associations locales et les autorités sont complètement dépassées et accusent l'État espagnol de les laisser sans aide. Ce qu'on sait, c'est que le ministère de l'Intérieur prépare l'organisation de plusieurs vols de rapatriement d'un migrant sénégalais. Le premier avion devrait décoller d'ici la fin du mois avec plus d'une centaine de personnes à bord en direction de Dakar. Les personnes à rapatrier en priorité vont être choisies parmi celles arrivées en juillet et en août, et aussi, évidemment, celles des dernières semaines.
Des retours qu'on qualifie de volontaires?
Forcé. Non, c'est okay. Forcé. Ces rapatriements rapides-là sont rendus possibles par un accord signé entre Madrid et Dakar.
Ah, ben oui.
Ces accords-là se multiplient d'ailleurs hein, entre États, en fait, qui autorisent le retour au Sénégal de toutes les personnes migrantes arrivées de façon irrégulière sur le territoire espagnol et qui ne sont pas dans une situation de vulnérabilité, par exemple, comme des enfants, des personnes âgées ou des malades, ou dont la situation ne justifie pas l'asile. Ce qui se multiplie aussi, ce sont les interceptions d'embarcations par la marine marocaine, mais aussi par les marines mauritaniennes et sénégalaises. D'ailleurs, depuis le 1er juillet, la marine sénégalaise a pris en charge près de 2000 exilés.
Oh, quand même.
Reste que cette route migratoire-là est une des plus dangereuses au monde, on l'a déjà dit. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales. Et donc, je termine sur ces chiffres-là. Selon les plus récentes données de l'OIM, publiées début septembre, donc depuis début 2023, ce sont 140 personnes migrantes qui seraient mortes ou auraient disparu lors de la traversée du Sénégal vers les Canaries.
Ouais.
Mais selon l'ONG espagnole Caminando Frontera, qui, contrairement à l'OIM, s'appuie sur des appels d'urgence avec les migrants en mer ou leurs proches, Caminando Fronteras estime que ce sont plutôt 778 personnes qui seraient mortes ou disparues sur cette route migratoire-là au cours du premier semestre.
J'aurais tendance à être d'accord avec cette ONG parce qu'on est dans l'Atlantique quand même. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des réseaux cellulaires partout.
Non, c'est ça.
Il doit y avoir beaucoup de naufrages, naufrages fantômes, je pense qu'on appelle, qui c'est-à-dire de personnes dont on n'a simplement pas la trace. On ne sait même pas qu'elles sont parties des fois en mer. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève. On en reparlera. On va continuer de parler des îles Canaries, puisque, comme tu dis, c'est une des routes migratoires les plus empruntées. Donc, quelques notes de musique et on retrouve Mathieu dans quelques secondes. On va parler de travail des migrants ici sur notre continent tantôt. Donc, j'en profite pour parler d'une deuxième poursuite publique contre Tesla, l'entreprise d'Elon Musk. On le sait qui n'est pas vraiment réputée pour son antiracisme. Il y a un an et demi, c'était l'État de la Californie qui avait lancé des poursuites, mais cette fois-ci, c'est l'initiative de l'Agence fédérale américaine qui est en charge du respect du droit du travail, le Equal Employment Opportunity Commission, ou EEOC, qui envoie Tesla devant les tribunaux, et les deux poursuites concernent du harcèlement raciste à répétition à l'usine située à Fremont, près de San Francisco. Ce que dit l'Agence fédérale, c'est que depuis au moins 2015, et malgré les plaintes et les poursuites, il y a aussi eu des poursuites individuelles et des recours collectifs qui ont même déjà, par le passé, condamné Tesla. L'entreprise a, malgré tout, continué à tolérer le harcèlement racial des employés noirs, en plus de soumettre à des représailles des travailleurs qui sont opposés à ce climat raciste, plutôt que de prendre les accusations au sérieux et essayer de régler le problème. Ce qu'on peut lire dans le texte de la poursuite est accablant. On parle de graffiti haineux, dont des variantes du mot en haine, des croix gammées, toutes sortes de menaces, des nœuds coulants installés un peu partout dans l'usine, et on connaît la symbolique extrêmement violente du KKK. Et comme Tesla a refusé à l'Agence fédérale toute demande de négociation pour compenser à l'amiable les employés victimes de cette haine raciale, ben l'Agence fédérale a décidé de poursuivre l'entreprise en justice. Donc voilà, Mathieu, on revient au Québec. Tu vas nous parler de conditions de travail des employés saisonniers. On en parle souvent ces temps-ci aux apatrides, mais on dirait que surtout pour le travail agricole ou alimentaire en général, pêcherie, transformation de la viande, il y a un peu plus de dossiers qui émergent à la surface, peut-être une plus grande sensibilité sur ces enjeux-là, même dans des séries, des téléromans, on en parle, des films, des romans.
Ben oui, on les nommera pas.
On les nommera pas parce que les gens les connaissent probablement déjà, mais on dirait que les langues se délient sur ces questions-là. Je sais pas si...
Ben oui, t'as raison. Ben les médias en parlent plus, les gouvernements sont obligés d'agir un peu plus, les organes administratifs de contrôle ou d'inspection sont un peu plus obligés de bouger, entre autres au Québec. Ben un dossier quand même qui est vraiment intense, on parle de travailleurs migrants qui ont dénoncé du travail forcé dans une usine québécoise. Et on reste dans le manufacturier, un peu comme Tesla, Simon.
Oui, oui.
C'est un article de Pivot qui est sorti au début du mois d'août, mais il y a eu une suite dans les derniers jours. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire, recruté au Mexique ou Honduras pour venir travailler en Montérégie comme soudeur, quatre travailleurs migrants sont tombés de haut lorsqu'ils ont découvert les faces cachées de leur emploi.
Ah bon?
Tous dénoncent avoir été victimes de fraude, travail forcé et menaces par l'entreprise System Finex. Lors d'une conférence de presse au CTI en juillet dernier, Carlos, Daniel, David et Juan se sont réunis pour dénoncer les abus vécus aux mains de leur ancien employeur, ayant subi des conditions de travail qu'ils qualifient d'inhumaines et très différentes de celles inscrites dans leur contrat. Tous expliquent qu'ils ont été embauchés à 23$ de l'heure, c'est bien le montant qui leur était payé, mais l'employeur les obligeait ensuite à lui rembourser une partie des salaires en argent comptant.
OK, ben oui. Hein.
Ils auraient été payés uniquement 10$ de l'heure en fin de compte, pendant des mois. De plus, alors que les travailleurs avaient un contrat de 40 heures semaine, ils disaient avoir travaillé 7 jours sur 7 de 3 heures du matin à 15 heures l'après-midi, y compris les jours fériés, pouvant ainsi cumuler jusqu'à 84 heures travaillées par semaine. Chaque travailleur témoigne aussi avoir eu à payer à l'employeur des frais de recrutement qui comprend des frais d'immigration pour chacun entre 6 000 et 25 000 $
Ben oui, c'est quoi ça?
Rembourser les frais, on a entendu ça avec le fou l'autre fois dont t'as parlé.
Oui,
là.
Un monsieur, j'oublie son nom.
Jean Lemay.
Jean Lemay.
Oui, Jean Lemay.
Je sais pas s'il est devenu, peut-être, c'est quoi le nom de l'entreprise? C'est quelque chose système?
Ben, c'est pas la même, c'est Finex, ouais, c'est pas bon, le...
Ouais, non, celle dont
dans
tu parles aujourd'hui.
Dans Montérégie aussi, là, ouais, t'as raison.
Puis qui fabrique quoi exactement?
C'est de la soudure, entre autres, je sais pas exactement, okay. J'ai pas fouillé. Officiellement employé en tant que soudeur, justement, il déclare que les tâches qui leur étaient réellement assignées relevaient du métier de manœuvre en construction, alors qu'il n'avait aucune formation dans ce domaine. L'employeur en aurait profité aussi pour leur demander de faire des travaux chez lui, comme tondre la pelouse ou bien nettoyer sa piscine, pour le même salaire, à 10$ de l'heure. Les travailleurs se plaignent de harcèlement moral de la part d'un employeur qui les aurait menacés de les renvoyer ou de voir leur salaire diminuer s'ils ne remboursaient pas leurs frais de recrutement ou qu'ils ne voulaient pas effectuer d'autres tâches que leur définition de tâches. L'employeur m'a menacé d'annuler mon permis de travail et de m'expulser si je ne payais pas rapidement les frais d'immigration, entre guillemets. Mon épouse a donc dû venir travailler pour l'entreprise à dénoncer Carlos, un des quatre travailleurs. Bénéficiant actuellement d'un statut migratoire, précaire, après la rupture de leur contrat de travail fermé, tous ont demandé un permis de travail ouvert pour des travailleurs vulnérables auprès d'Immigration Canada. L'Agence fédérale les aurait toutefois informés récemment que les quatre dossiers auraient été perdus.
Hein?
Pendant ce temps, une dizaine d'autres travailleurs immigrants travailleraient encore dans cette usine dans les mêmes conditions selon les quatre ex-travailleurs. Parce que quand tu as un problème avec ton permis fermé, tu peux demander un statut de travailleur vulnérable.
Oui, mais on dirait tout ce que tu racontes, un cas quasiment d'école De tout ce qui ne fonctionne pas. Là,
exactement, exactement. Le directeur général de l'entreprise Système Finex, Elios Mounoz, dément toutes les accusations concernant les surplus d'heures, le surplus d'heures, la partie du salaire impayée et les frais de recrutement. Il affirme que tout cela serait une manière pour les travailleurs d'immigrer de façon illégale en brisant le contrat de travail fermé pour en obtenir un ouvert.
Oh là là.
Après leur départ d'entreprise, les quatre travailleurs ont reçu une poursuite au civil de la part de Finex pour des prétendus dommages économiques causés par la rupture des contrats de travail de 2 ans.
OK, si je parlais de cas d'école, c'est encore pire que je pensais.
Oui, ça. Oui. Mais là, la semaine passée, la CNSST a examiné les plaintes des travailleurs et exige maintenant à l'employeur de leur verser l'argent qu'il leur doit. Système Finex doit désormais 404 457 $ aux quatre travailleurs migrants. Ça, c'est une décision récente. Puis là, la CNSST, ça bouge un peu. Parce que mon autre... ça, c'est la conclusion pour l'instant. Là, on ne sait pas s'ils vont être remboursés, comment, quand.
Oui.
Et qu'est-ce qui arrive avec leur statut, mais au moins, ça bouge de ce côté-là.
Et puis les pelouses tondues.
Là, oui, oui, les piscines nettoyées. Donc, mais le CTI est avec eux. Sinon, ben la CNSST reproche à Bombardier Produits Récréatifs d'avoir versé des salaires en deçà du salaire minimum en vigueur au Québec. 76 constats d'infraction ont été remis en août pour des infractions qui auraient eu lieu de décembre 2021 à novembre 2022. BRP n'aurait en outre pas majoré de 50% le taux horaire pour des heures supplémentaires et aurait omis de remettre un bulletin de paye aux salariés. Mmh. C'est des infractions, ça aussi. BRP se dit en désaccord avec les constats et demeure convaincu d'avoir payé de façon juste et équitable ses employés mexicains, originaires du Mexique, qui venaient aider au Québec, parce que c'est des employés de Bombardier au Mexique.
Ah ben oui, OK.
Mmh. Ben, fait qu'il y avait le salaire du Mexique, finalement. Selon des talons de paie fournis par 3 travailleurs, le salaire horaire variait de 5,50 à 7,25 $ dans une usine, de Bombardier.
C'est trop.
Mmh. L'entreprise a déclaré avoir retranché environ 60% du salaire des travailleurs mexicains pour couvrir les frais de prise en charge de transport et d'hébergement.
Donc, leur salaire de base était quoi, 12,50 $?
Non, c'était sûrement 20 $, mais une question d'équité pour les travailleurs québécois qui assument leurs frais ici, en vivant ici, justifie le directeur des ressources humaines de l'usine de Valco. Incroyable, en 2023.
Ah, mon Dieu.
BRP a reçu à elle seule 5 fois le total des constats remis en 2022 à des employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires, donc 76. Il y en avait eu 14 en 2022 pour l'ensemble du Québec. Donc, on voit que la CNSST bouge un peu. Selon un professeur de droit, la remise d'infractions de nature pénale est distincte du processus d'indemnisation. Selon lui, la CNSST a donc choisi cette voie pour passer un message fort aux entreprises qui bénéficient du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, dans le cas de Finex, c'était de rembourser, mais là, c'est des trucs pénales. Ça, c'est des amendes beaucoup plus importantes, puis ça fait ça peut envoyer des gens, pas en prison, là, mais disons, avoir des dossiers disciplinaires. Fait que finalement, les organismes Illusion Emploi de l'Estrie et RATMAC, Réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec, se félicitent d'avoir dénoncé cette situation auprès de la CNSST et attendent vraiment de voir la suite pour d'autres employeurs donc au Québec, autant au niveau agricole, comme tu disais, que dans l'industrie. On parle de Bombardier, on parle de fleurons là, de l'industrie manufacturière.
Qui sont hautement subventionnés en plus.
Puis qui sont vus comme des sauveurs qui créent des emplois puis exploitent des gens d'Amérique latine, qui sont même leurs propres employés là-bas. C'est incroyable.
Ouais. Là. Ils les poursuivent après.
Donc, voilà histoires, mais t'as raison, ça bouge, Simon.
Oui, non, mais c'est quand même abracadabra, tout ce que tu nous racontes. Moi, je pense que j'ai besoin d'aller en musique. Là. Je sais pas si... Est-ce que Marie-Ève, on est prêt? OK, cool. Since we locked in, let's get it. Man, this bitch with all my dogs, I won't forget them. These my niggas. If he get rich, that mean we rich. If he get lit, that mean we lit. If he get hit, that mean we spent. That mean we fan, that mean we kin. That mean we locked, that mean like, if I drop 5 and we need 10 and he drop 5, that mean we in and then we up. We got next, and if they hate, that mean they press. That mean we pressure on they neck. That mean we stars, that mean like track. Like, they say the best is around the corner, so I spin the block. They say time is money, I bought diamonds, put them in my watch. They ain't think that I was finna do it. I said, okay, watch. My ex told me I'm so gassed up. Funny how I never stop. Yeah, it's funny how I never stop. I'ma let a hater see me when I know it hurts. But you can fuck around and I might put you in a song. Or you can fuck around and I might put you on a shirt. Hey. Yeah. One thing I need you to know, I'm way too much for a 304. And I ain't gonna lie, I don't give a fuck about nothing. Lost 2 niggas in the last 2 weeks, rest in peace, Jedi and stunning. On the outside I look cool, but on the inside I be numb. Got no choice but keep our heads high and going up this one. Going
gon' run this check. Rest in peace, Miss Janet Coons. I just wanna pay my respect. Love the family like cook food. Long as you watching over, we blessed. Got some shit to get off my chest. Got some shit to get off my. They say the best is around the corner, so I spin the block. They say time is money, I buy diamonds, put them in my watch. They ain't think that I was finna do it. I said, okay, watch. All them times they pull me over, funny how I never stop. Funny how I never stop. I'ma let a hater see me win when it hurt. But you can fuck around and I might put you in a song. Or you can fuck around and I might put you in the dirt.
On entendait Nate Husser, rappeur montréalais, assez impliqué, paraît-il, dans son quartier de la Petite Bourgogne et qui est en train tranquillement de se bâtir une carrière internationale. Il vit maintenant à la fois ici et en Californie. Ici au Québec, il a déjà collaboré avec, entre autres, notre préférée Charlotte Cardin, Fouki et Black Tiger Sex Machine. La pièce qu'on entendait, c'était Lemons, sortie en avril, qui n'est pas sur un album, qui est juste un single très accrocheur avec son beat drum and bass et sa mélodie toute simple au piano. Nate Husser serait sur le point de sortir du nouveau matériel, un album complet, donc si vous avez aimé ça, surveillez Nate Husser. Donc maintenant, et Marie-Ève va poursuivre avec un bloc répression policière ensuite, je vais entamer avec d'abord des données publiées lors du lancement le 5 octobre dernier du projet Perspectives féministes sur les profilages et les discriminations policières de la table des groupes de femmes de Montréal, le TGFM. Données qui indiquent assez clairement que les Montréalaises sont de manière assez généralisée méfiantes envers la police, que ce soit les corps officiels de police ou encore la police de la Société de transport de Montréal. Et aussi les agences de sécurité privées comme celles qui sont très présentes dans les cégeps et les universités. Presque la moitié des femmes sondées disent ne pas avoir fait appel à la police alors qu'elles en avaient besoin. Pour toutes sortes de raisons qui sont détaillées dans le rapport. On parle d'inefficacité, d'attitude méprisante ou intimidante, de profilage en tout genre, économique, politique et évidemment racial. Pour plus de détails, parce que là, je vous résume ça très sommairement, pour découvrir très bientôt la deuxième phase de publication des données, je vous invite à consulter le site de la table des femmes. Je recommence, la table des groupes de femmes de Montréal, tgfm.org. Vous cliquez dans le menu sur « Outils » et sur « Nos publications ». Assez parlé maintenant, Marie-Ève, toujours dans les mêmes thématiques, c'est à ton tour.
Mais oui, je reste dans la thématique porcine, effectivement, avec mon retour, avec un retour sur l'adoption au Québec du projet de loi 14.
Sur des exploitations agricoles, c'est
ouais, ça. Oui, c'est ça. Donc, adoption le 3 octobre dernier, qui s'est fait dans l'indifférence la plus totale des grands médias. Cette loi qui se nomme « Loi modifiant les diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la loi visant à aider à retrouver des personnes disparues »
Y a-t-il un acronyme?
est dénoncée de toutes parts parce qu'elle ne tient pas compte d'aucune, elle tient compte d'aucune des critiques et qui avait été émise par plusieurs organisations lors de son élaboration, mais aussi parce qu'elle propose aucun progrès significatif dans la lutte au profilage racial et social. Et surtout parce qu'elle comporte des reculs importants sur le plan de la déontologie policière et du Bureau des enquêtes indépendantes.
Oui, qu'on n'était pas déjà non plus dans le plus progressiste.
Voilà. Donc, la nouvelle loi, d'abord, prévoit que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, va devoir rendre publique une ligne directrice sur les interpellations policières et les interceptions routières dans un délai de 2 mois suivant la sanction de la loi. Ce qui ne participera certainement pas à améliorer la confiance envers la police, c'est qu'aucune consultation publique formelle n'est prévue dans le cadre de l'élaboration de cette ligne directrice-là.
Est-ce que certains groupes communautaires ont été invités?
Non, non.
Non, il n'y a rien. Rien.
Non, non, ça va se faire strictement en partenariat avec les corps policiers.
Okay.
Parmi les autres reculs importants, il y a le retrait du droit de porter plainte officiellement en déontologie policière pour les personnes et les organisations qui sont pas visées ou témoins directs d'une action policière.
Dans la Ligue des droits et libertés.
Entre autres. C'est ce que demandait d'ailleurs le milieu policier depuis longtemps. Concrètement, ben, par exemple, si une personne perd la vie à la suite d'une intervention policière sans témoin, ben il n'y a personne qui va pouvoir porter plainte, pas même la famille.
Ben voyons.
La seule option va être de déposer un signalement, Mais à la différence d'une plainte, un signalement ne permet pas de contester une décision de la commissaire à la déontologie policière. Et quand on sait que, selon les chiffres même de la commissaire, moins de 7 % des plaintes mènent à des enquêtes et moins de 1 % mènent à des sanctions pour les flics visés, ben cette nouvelle disposition-là n'a absolument rien de rassurant.
Il va y avoir moins de plaintes à la base. Donc,
ben, il ne se passera plus rien, en fait. C'est ça. Autre recul, ben, comme si c'était pas déjà assez consternant, le directeur du Bureau des enquêtes indépendantes va maintenant avoir le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à toute enquête avant même qu'elle ne soit complétée.
Ah, d'accord.
C'est super. Sur la scène fédérale maintenant, ça c'était sur la scène provinciale, c'est le projet de loi C-48 sur la réforme de la libération sous caution qui soulève des inquiétudes. C'est un projet de loi qui était déposé par les libéraux et qui vise à resserrer l'accès à la libération sous caution pour certains récidivistes violents. Et cette loi-là est actuellement à l'étude par un comité sénatorial. Ce qui inquiète particulièrement l'association du barreau, autochtone du Canada, c'est que le projet de loi viendrait élargir les dispositions d'inversion du fardeau de la preuve pour inclure les personnes qui ont déjà été condamnées ou même libérées pour une infraction de violence conjugale. Et donc, le problème, selon l'association, c'est que, ben, les femmes autochtones victimes de violences conjugales se retrouvent souvent accusées par la police lorsqu'un agent intervient lors d'un incident parce que ben, souvent, elles se défendent contre leur agresseur. Donc, le fait de transférer à ces femmes-là la responsabilité de prouver pourquoi elles devraient être libérées avant leur procès ben, comporte évidemment un risque de préjudice. Et quant à l'Association des avocats noirs du Canada, ben, le projet de loi risque de renforcer la discrimination raciale et la surreprésentation aussi des personnes noires derrière les barreaux. Si je reviens sur l'incarcération des femmes autochtones, parce que selon le rapport de 2023 de l'enquêteur correctionnel du Canada, la moitié des femmes détenues au Canada sont des autochtones, alors qu'elles ne représentent que 5 % de la population. Leur taux d'incarcération est 15,4 fois plus élevé que celui des femmes non autochtones. Mmh. Et pire encore, elles représentent 65 % des détenus en sécurité maximale. Et même qu'en Saskatchewan, 98 % des jeunes filles détenues dans les prisons pour mineurs de la province sont autochtones.
Aïe, aïe.
Dans le même rapport, on peut lire ceci. Elles sont plus souvent en sécurité maximale. Elles sont plus assujetties à l'utilisation de la force. Elles s'automutilent plus, font plus de tentatives de suicide. Elles sont plus transférées de façon involontaire et se retrouvent donc plus loin de leur cercle social. Elles sont libérées plus tard, souvent aux deux tiers de leur peine. Leur liberté conditionnelle est plus souvent révoquée et il y a plus de récidives. Les effets sur l'incarcération des personnes autochtones est documenté depuis très longtemps. Un article de APTN News rapportait déjà qu'en 1882, un chirurgien du pénitencier de Kingston, qui est aujourd'hui fermé, disait dans un rapport adressé au ministre de la Justice de l'époque « En ce qui concerne les Autochtones, il n'existe aucune catégorie de criminels dont l'état d'incarcération diffère autant de leur mode de vie libre antérieur. Par conséquent, de leur première admission à la prison jusqu'au jour de leur libération, ils présentent de fortes manifestations d'abattement et de découragement. »
C'est ça, comme si c'était quasiment une double peine ou une peine...
Exact. Et donc, parmi les causes de la surreprésentation des femmes autochtones dans les prisons, il y a Nicole Obrigavitch, qui est directrice générale de la société Elizabeth Fry. Elle pointe du doigt le manque de soutien à la sortie de prison, surtout lorsque cette prison-là est provinciale, parce que ces femmes sont la plupart du temps relâchées dans la rue avec peu ou pas de soutien du tout, ce qui les amène à commettre de nouveaux crimes pour survivre et donc à retourner en prison et éventuellement à purger une peine dans une prison fédérale. Si plusieurs proposent des solutions pour décoloniser les prisons, et là je mets des gros guillemets, d'autres,
ben, ouais.
Comme la professeure associée au département de sociologie de l'Université Bishop, Vicky Chartrand, ben, elle comme elle, plusieurs croient que la seule véritable solution, c'est de les abolir, les prisons. Pour elle, les prisons ont remplacé les agents des affaires indiennes d'autrefois et c'est encore une forme de politique colonialiste. Je la cite, « Les enfants des femmes emprisonnées vont à la DPJ, c'est la suite des pensionnats. » Je vous invite, je termine là-dessus, je vous invite à aller lire le récit numérique où j'ai tiré la plupart de mes informations que Radio-Canada a réalisé sur la question et qui s'intitule « L'histoire derrière les barreaux ». C'est un récit numérique qui se décline en trois volets. Un qui parle d'un pavillon de ressourcement pour femmes autochtones en Saskatchewan qui tente un peu là, d'offrir une autre forme d'enfermement que la prison traditionnelle et qui intègre des traditions autochtones. Un autre volet qui présente les témoignages et les histoires de trois femmes autochtones détenues. Et enfin, un autre qui analyse le plus en profondeur la question.
Mais tout ça n'est pas systémique, évidemment.
Non. Ça dure depuis 1882, mais ça n'a rien de systémique.
On parle quand Kingston était capitale du Canada, quasiment. Fait que bon, quelques notes de musique et on revient avec l'agenda. Merci, Marie-Ève. J'ai pas encore digéré tout ce que tu as dit. Ça va me prendre un certain temps.
Ça met en joie le vert.
Ben, c'est comme trop d'informations, on dirait. C'est trop gros dans certains cas. Donc, voilà. Avant de passer aux manifestations, j'ai quelques suggestions de lecture et de visionnement. Un visionnement d'abord, un documentaire gratuit sur tout.tv dont le titre est « Derrière chaque image, une histoire ». Une coproduction PVP et film Sanagique dans lequel on suit Samiane, qui visite différentes collections photographiques, celles du Musée McCord d'Archives Canada ou même du Musée ethnographique du Quai Branly à Paris. On interprète des photos anciennes d'Autochtones anonymes. En général, on a comme seuls indices le nom du photographe blanc. Parfois, le lieu et l'année de manière plutôt aléatoire, mais pratiquement jamais de nom de personne ou de mise en contexte. On observe donc Samiane dans son travail d'interprétation et d'enquête pour retrouver l'identité des personnes anonymes et redonner du sens à ces images. Je rappelle le titre du documentaire « Derrière chaque image, une histoire ». Il faut souligner une initiative d'Archives Canada qui a lancé en 2022, je ne me rappelle pas si j'ai bien... Bref, l'initiative s'appelle « Un visage, un nom ». Qui a consisté à numériser des milliers de photos pour les partager sur les réseaux sociaux en souhaitant que les descendants puissent reconnaître leurs parents ou leurs grands-parents. Et jusqu'à maintenant, 2500 personnes qui apparaissaient sur les photos ont été identifiées, permettant non seulement de leur donner un nom, mais aussi d'apporter un peu plus de contexte. Deux suggestions de lecture maintenant, toujours dans l'univers autochtone, le dernier numéro de Lettres québécoises dont le titre est « Sœurs autochtones disparues ». Dans ce numéro, la revue de littérature a donné carte blanche à la poète, romancière et artiste cri Virginia Pessemapeup-Bordelot, qui a invité une dizaine d'auteurs et autrices autour du thème de la mémoire des femmes autochtones disparues. Les textes du dossier sont très différents les uns des autres, mais ils ont en commun les deux axes suivants, l'indignation et la sororité. J'en profite pour rappeler que le Salon du livre des Premières Nations se tiendra du 16 au 19 novembre à Québec. Deuxième suggestion de lecture, un roman coup de poing d'Édouard Deschênes, Les oiseaux du désert, dont la thématique est la violence aux frontières. Une fiction donc hyper réaliste qui nous amène à la frontière Mexique-États-Unis du côté de l'Arizona, où plus de 300 personnes meurent chaque année. Je cite l'auteur, « La frontière n'efface pas seulement les corps, mais aussi les récits et les histoires. Je veux être le porte-voix de ces récits. » L'auteur a vécu et étudié à Mexico et s'est rendu à plusieurs reprises à la frontière pour donner un coup de main aux organismes qui tentent de venir en aide aux migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis clandestinement. Dans son roman, il suit un migrant hondurien avant et pendant son périple périlleux dans le désert en essayant de déjouer les gardes frontières, les minutemen, la faim, la soif et la chaleur. Donc c'est aux éditions XYZ, Les oiseaux du désert d'Édouard Deschênes. Je ne l'ai pas lu, mais c'est dans ma liste de lecture. Pour très bientôt, maintenant, suggestion de ressources en ligne, un lexique de la solidarité internationale sous forme de PDF à télécharger offert par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOCI. D'ailleurs, c'est facile à trouver, on va sur acoci.qc.ca/lexique. On y définit en quelques phrases et de manière très facile à digérer une centaine de concepts pas toujours évidents comme justice climatique, privilège, décolonisation, complexe du sauveur blanc. J'ai hâte de lire cette définition. Bon, les manifs, il y en a quelques-unes à Montréal dans les jours qui suivent. D'abord, face à toutes les attaques que subissent les personnes trans depuis toujours, mais de manière encore plus violente depuis quelques semaines au Québec et un peu partout, Vous pouvez répondre à l'appel du Pink Bloc, de Montréal antifasciste, de Céleste Trianon, de Québec contre la haine et de Première Ligne, qui vous invite à une manifestation ce samedi 21 octobre, le matin, de 10h à beaucoup plus tard, paraît-il, devant le siège du ministère de l'Éducation au 600 Folhomme, coin Notre-Dame. Des premières manifs anti-trans un peu partout au Canada n'avaient pas attiré de contre-manifestations assez importantes et il faut vraiment laisser aucune chance à l'obscurantisme. Ensuite, à 14h au Square Dorchester, le samedi, parce qu'il y en a tellement, on est mélangés, donc toujours ce samedi 21 octobre, 14h, il y a l'appel de l'Association des travailleurs et travailleuses temporaires d'agences de placement, du CTI et de Statut pour les Guinéens à une marche pour la régularisation des sans-statuts. Donc, rendez-vous au métro Lionel Groulx ce samedi à 14h. 14h le lendemain au Square Dorchester, donc le dimanche 22 octobre, ce sera l'endroit pour exprimer votre solidarité au peuple palestinien et surtout aux habitants de Gaza qui vivent actuellement un bombardement quotidien et un siège complet, un blocus total et étouffant qui les prive d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments. Rendez-vous dimanche. Il faut vraiment que ça entre dans la tête de Trudeau et de Mélanie Joly que les actions criminelles de l'État d'Israël doivent être très fortement condamnées. Parce qu'on assiste vraiment à un genre de valse. Oui, mais le droit de se défendre à mener les actions criminelles, il faut les dénoncer, je pense. Donc j'espère qu'ils nous écoutent. Autre suggestion à l'agenda, non pas une manif cette fois, mais une soirée organisée par l'IRIS, Réforme Dubé, perspective anticoloniale et antiraciste sur le système de santé. C'est une série d'entretiens avec plusieurs invités sur les différents projets actuels de réforme en santé et comment le gouvernement caquiste devrait beaucoup plus et mieux prendre en compte la diversité québécoise, que ce soit les clientèles racisées, autochtones ou autres. Ça se passe le mercredi 25 octobre, 17h30, au Centre Saint-Pierre, 1214 rue Panet, à Montréal. Informations sur iris-recherche.qc.ca. Dernier élément à l'agenda, on vous invite à signer la pétition sur change.org « Arrêtons la procédure de déportation d'Ismaël » pour soutenir Ismaël Macias Garcia et sa famille. C'est lui qui est menacé de déportation et non sa famille. Et ce, malgré qu'il ait obtenu un certificat de sélection du Québec, il est détenu par l'Agence des services frontaliers à Laval et fait face à une menace de déportation. Déjà plus de 4000 signatures amassées. Voilà pour l'agenda. On se dirige assez rapidement vers la conclusion déjà de l'émission. Donc, cette édition du 19 octobre 2023 est terminée. Coordonnées, vous pouvez nous écrire à apatridesanonymes@resist.ca. On a une page FB. On est sur les ondes FM 107.9 de Radio Victoria dans l'ouest, sur l'île de Vancouver. Évidemment, on est sur choc.ca en direct tous les deux jeudis à 18h30 ou en rattrapage. Et on a un site web apatridesanonymes.info. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Simon. C'était bien intéressant, ton contenu. Et l'agenda était
foisonnant.
Hey, tu vas avoir toute qu'une fin de semaine,
toute une grosse
Simon?
Fin de semaine. Hein?
Ben oui, ben on va être là ensemble aux quatre manifs, à peu près. Puis on va à la soirée de l'Iris, tout ça.
Bien sûr, on va lire plein de livres.
Merci beaucoup à vous pour tout ce contenu. Il y en avait plus que ce que moi j'ai préparé. On a une dernière toune pour vous. C'est la formation locale Patch, donc P-A-T-C-H-E. C'est autoproduit, si j'ai bien compris. Premier extrait de leur album Motorique, sorti au printemps dernier, la pièce du même nom, donc Motorique avec un K. C'est une sorte de mélange de krautrock et de musique électro, et selon Colt Montreal, c'est comme si PJ Harvey avait rencontré Kraftwerk. Donc, des comparaisons hasardeuses. Si vous aimez ça, ils seront au ministère à Montréal le 16 novembre avec Mélissa Fortin et Yocto, qu'on a fait jouer, je crois, lors de
notre... Il y a deux semaines, oui.
Donc, on a de la cohérence musicale ici. On ne sera pas là dans deux semaines pour raison de pause post-estivale. Donc, les apatrides anonymes, on se retrouve normalement dans un mois. le jeudi 16 novembre à 18h30 en direct des studios de Choc à l'UQAM. Merci encore à Marie-Ève et Mathieu.
Merci à toi, Simon.
Ça fait plaisir. Merci à tout le monde.
À tout le monde qui nous écoute.
Merci à tout le monde. On va profiter, on va souhaiter de profiter de l'automne. On reste à l'affût, on reste informé et on écoute Patch.
Et on se mobilise.
Voilà. Bonne soirée.
Bye.